Marcher vers la liberté. En 2008, on pouvait lire dans un livre que le catholicisme est une religion de servitude inadaptée à la liberté et qu'il faut trouver une religion qui soit compatible avec l'âme des temps nouveaux, c'est-à-dire avec la liberté. Bâtir une société où chacun pourrait vivre selon ses propres choix, sans déterminisme, sans contrainte, sans obéissance à des lois extérieures, voilà ce que beaucoup de nos contemporains désirent et souhaitent, quitte à en faire une nouvelle religion. Cette nouvelle religion dans la société laïque devrait être construite entièrement autour de l'indépendance du jugement individuel. Il s'agirait d'une religion de l'idéal, un mouvement illimité au cœur de l'existence qui fait du sentiment religieux, celui d'un infini qui habite le fini, un sentiment pleinement humain. On peut lire dans ces citations de, vous savez qui, de Vincent Peillon, ce que cherche l'homme d'aujourd'hui et ce qu'il cherche avec une force toute particulière, il pense pouvoir et même devoir s'assimiler l'infini. Le désir d'infini de l'homme supporte-t-il l'existence d'un Dieu distinct de lui? Ou bien ce Dieu n'est-il pas forcément opposé à l'homme, tel que le Dieu de la révélation chrétienne, qui pour beaucoup semble inconciliable avec leur liberté? C'est dans ces termes que la question de la liberté ne se pose pas seulement aujourd'hui, mais elle s'est déjà posée ainsi au XVIe siècle, au début de la modernité. C'est pourquoi il est utile de lire Thérèse d'Avila pour approfondir le thème de la liberté. Nous allons d'abord évoquer rapidement la pertinence de lire un livre de Thérèse d'Avila pour notre recherche sur la liberté aujourd'hui. Nous regarderons ensuite le fondement anthropologique de la liberté avant de présenter un parcours de la libération progressive de l'homme à travers les sept demeures dans le chef d'œuvre de Thérèse d'Avila, les châteaux intérieurs. Voilà le plan de l'exposé de ce matin. Donc, trois parties. Donc, je prends le premier. Thérèse estimait beaucoup sa propre liberté personnelle. Elle ne lâcha pas au début de sa vie religieuse, comme on l'a déjà entendu, certaines relations sociales auxquelles elle tenait beaucoup. Liberté signifiait pour elle, à cette époque, suivre ses propres exigences, dans la vie sociale comme dans la vie avec Dieu. Il lui a fallu un veni créateur, une novène de veni créateur pour en sortir. Cette liberté lui était tellement chère qu'elle n'aurait pas accepté des confesseurs qui lui auraient demandé d'y renoncer. Cependant, elle a appris petit à petit qu'il y a liberté et liberté. Elle a fait l'expérience que certaines formes de liberté sont en fait des aveuglements, des esclavages qui retiennent captifs et dont Dieu seul peut libérer l'homme. Elle a entendu Jésus lui dire « Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais avec les anges. » Cette grâce l'a libérée d'un attachement désordonné à des affections qui la gênaient dans sa marche vers Dieu. La découverte de fausses libertés a aiguisé en elle son désir d'une vraie liberté. Elle-même a parcouru un chemin dramatique de libérations successives jusqu'à la liberté d'esprit au sommet de la vie spirituelle. C'est pourquoi on pourrait définir son cheminement, comme je l'ai fait ici, avec l'expression d'une liberté à l'autre. Thérèse va se faire notre guide maintenant pour marcher vers cette liberté de l'esprit que nous connaissons si peu tant qu'on n'y est pas arrivé. Quand Thérèse était encore enfant, une grande controverse sur la liberté éclata entre, d'un côté, le jeune réformateur Martin Luther et de l'autre, le célèbre savant humaniste Erasme de Rotterdam. Cette controverse nous éclaire sur le point qui est l'apport original de Thérèse dans ce débat et aussi sur la façon dont nous aujourd'hui considérons la liberté de l'homme. Erasme, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait un christianisme intérieur, évangélique. Il tenait à sauvegarder sa propre liberté spirituelle qu'il comprenait comme une indépendance personnelle. Il aurait aimé un christianisme qui soit défini par le plus petit nombre de dogmes possibles et que tout le reste soit laissé au propre jugement de chacun. Il semblait ainsi assez proche des positions de Martin Luther. Celui-ci considérait l'homme pécheur comme un esclave sous le joug de la loi, donc sans liberté. Dieu seul peut, par pure grâce, libérer l'homme de ce joug et lui permettre d'agir librement, c'est-à-dire, selon Luther, uniquement pour Dieu. L'homme reçoit cette liberté-là, selon Luther, de façon toute passive de Dieu. Et il ne peut collaborer aucunement par ses propres forces. Donc pour Luther, l'homme n'a plus de liberté propre, sinon celle que Dieu donne aux chrétiens, justifiée par pure grâce. Si on traduit cette logique en chiffres, ça fait ça. 0% pour l'homme, 100% du côté de Dieu pour la grâce. Erasme défend contre Luther le libre arbitre de l'homme et la possibilité pour l'homme de collaborer avec Dieu à son propre salut. Erasme parle d'une synergie entre la grâce de Dieu et la liberté humaine. Donc, tout en voulant sauvegarder une vraie liberté de l'homme, Erasme reste cependant dans une semblable compréhension des rapports entre l'homme et Dieu, où la collaboration entre grâce et liberté est comprise comme une sorte de division de travail, où ce que fait une partie n'est plus à faire par l'autre. Et donc, selon Erasme, on pourrait dire que Dieu, dans une œuvre de bien, fait 3/4 de la tâche, et l'homme un quart. Et donc vous avez 25% du côté de l'homme et 75% du côté de Dieu. Thérèse d'Avila, contemporaine d'Erasme et de Martin Luther, n'a probablement pas connu cette controverse, ni les travaux du Concile de Trente, qui va répondre à ces questions que pose la réforme protestante. Thérèse apporte cependant son expérience mystique, et qui va nous permettre d'approfondir théologiquement une conception de la liberté de l'homme où Dieu et l'homme ne sont plus compris comme des rivaux qui vont se partager des pourcentages. Donc on va voir justement le point qui est l'originalité de Thérèse d'Avila. Et donc regardons le fondement anthropologique de la liberté selon le château intérieur. C'est son chef d'œuvre, écrit en 1577. Le thème de la liberté est présent partout, mais sans être au premier plan. Donc nous allons parcourir ce livre en cherchant à chaque pas ce qui concerne la liberté. Thérèse y pose dès le début le fondement anthropologique de la liberté. On a déjà entendu que Thérèse compare l'homme ou l'âme humaine à un château. On a déjà entendu que l'âme pour Thérèse ici désigne toute la personne dans son intériorité. Donc c'est très proche de ce qui signifie le mot cœur dans la Bible. Donc le château est une image tirée de sa culture qui renvoie à une habitation de riches, de nobles, de princes. Thérèse exprime ainsi l'idée de grandeur et d'ampleur, de valeur et de beauté de l'âme. Et le centre est habité par le roi, par Dieu lui-même. Portez vos regards au centre, c'est la pièce, le palais où le roi séjourne, dit-elle. Première demeure 2:8. L'homme en son intériorité est donc comme un espace large, de grande ampleur, de grande capacité, jusqu'à pouvoir héberger le Créateur lui-même. L'homme, pour Thérèse, est ainsi un mystère, comme Dieu est mystère. Elle dit, au premier demeure 1:1, « Pour moi, je ne vois rien à quoi l'on puisse comparer l'excellente beauté d'une âme et son immense capacité. » Donc Thérèse fonde explicitement cet enseignement anthropologique sur Genèse 1:26, l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Je ne développe pas, c'est très connu. Si donc l'homme porte les traits de Dieu, c'est que Dieu lui-même est présent en lui et le fait participer à sa lumière. Toute la beauté et la splendeur du château découlent de la relation que l'homme entretient avec l'hôte divin. En plus, ce château, c'est un château à visiter. Comment comprendre cette présence de Dieu au centre de l'âme et la façon dont l'homme doit avancer vers les différentes demeures, à travers les différentes demeures, vers le centre de son propre être? Comment Thérèse, comme Thérèse le dit elle-même dans, au premier demeure, chapitre 1, numéro 5, mais, dira-t-on, c'est déraisonné de parler ainsi, car si ce château est l'âme elle-même, il est clair qu'elle n'a pas à y entrer. Ce serait aussi peu sensé que de dire à quelqu'un d'entrer dans une pièce où il serait déjà. Mais il faut que vous le compreniez. Il y a une grande différence entre y être et y être. Fin de citation. Donc pour répondre à cette question, regardons de près ce que le Père Marie-Eugène nomme les deux modes de présence de Dieu, parce qu'il s'agit là d'une clé de compréhension pour saisir le fondement de la liberté de l'homme chez Thérèse. La première force de présence de Dieu, là vous le connaissez, s'appelle présence d'immensité et traduit le don de l'être à toutes les créatures. Ce qu'on nomme parfois aussi la création continuée. Dieu est présent dans toutes les créatures en les tenant dans l'existence. Le Père Marie-Eugène cite Saint Paul dans les Actes 17, 28. En lui, nous vivons, nous avons le mouvement et l'être. Donc ce niveau de la présence de Dieu explique déjà le symbolisme du château chez Thérèse, à savoir l'homme comme demeure de Dieu. Mais il n'explique pas la progression de l'âme vers le centre. Si Dieu est présent dans tout notre être, comment dire qu'il est au centre? Si le château représente l'âme, comment doit-elle entrer plus profondément en elle? Mais là, justement, il y a une deuxième présence qui s'appelle la présence objective. Elle correspond à des relations nouvelles que l'homme peut établir avec Dieu. Or, ces relations nouvelles dépendent pour une part de l'action de la personne. Dans la présence d'immensité, elle reçoit l'être et la grâce, et dans la présence objective, elle assume ses dons et elle les met en œuvre. La présence objective est, pourrait-on dire, la réalisation, la mise en pratique des capacités reçues dans la présence d'immensité. Les deux formes de présence de Dieu sont donc étroitement liées. La deuxième forme ne s'explique que parce que l'homme, grâce à la première forme, est capable de répondre librement aux dons de Dieu et parce qu'elle le fait effectivement. Donc la grâce divine et la liberté font déjà partie de la présence d'immensité. Ici, le propre de la présence objective est la relation librement établie par la personne avec Dieu au moyen de la grâce. C'est une explication du fondement de la liberté de l'homme dans le don du Créateur et une explication de la possibilité même d'une croissance dans la liberté. C'est possible par l'établissement progressif des relations réciproques et de plus en plus intimes entre Dieu et l'homme. Dieu m'a créé libre, mais il faut que je réponde librement à ce don. Donc vous voyez, Thérèse affirme ainsi à la fois le primat de la grâce de Dieu et l'importance de la nécessaire coopération libre de l'homme. Luther ne pouvait pas affirmer ces deux réalités en même temps. Erasme s'est cru obligé de réduire la part de l'homme pour sauvegarder la part de Dieu. Et bien, Thérèse d'Avila, parce qu'elle comprend à partir de son expérience mystique les relations entre Dieu et l'homme en termes d'amitié et d'intériorité, affirme l'une et l'autre à 100%. Cette compréhension de l'intériorité de l'homme est au fondement de tous les cheminements spirituels. Dans la collaboration entre Dieu et l'homme, Thérèse explicite surtout l'action de Dieu, qui est première et qui guide la réponse libre de l'homme. La croissance spirituelle de l'homme est ainsi un mystère, mystère de la liberté divine et mystère de la liberté de l'homme qui collabore au don de Dieu. Chez Thérèse, on a vu, l'avancement ne se fait pas sur une ligne droite, mais à travers des demeures qui sont organisées en cercles concentriques autour de la demeure principale où Dieu habite. Et donc de cette façon, on voit que l'avancement dans la vie spirituelle se fait par une intériorisation progressive. Et là, ça m'a donné à réfléchir. Il est très remarquable que le « moi » dans l'écrit de Thérèse se trouve d'abord et d'emblée à l'extérieur du château. Pour entrer, il faut une réponse libre à l'appel de Dieu. Si l'homme est d'abord à l'extérieur du château, n'est-ce pas que l'homme doit assumer son être libre et que son agir libre est confié à sa responsabilité? La position hors château est évidemment aussi l'expression du péché qui a aliéné l'homme de sa propre liberté et le laisse comme hors de lui-même. Mais soulignons que l'homme, même baptisé, doit conquérir d'une certaine façon sa propre intériorité. Et cela en s'approchant de Dieu. Inversement, en s'approchant de Dieu au centre, il va habiter sa propre demeure. Il se trouve lui-même et devient de plus en plus libre. La liberté est un don de Dieu à l'homme dans la création, mais la liberté est aussi un appel à assumer avec responsabilité, un appel à assumer avec responsabilité ce que l'on est. La liberté est donnée, mais elle n'est pas toute faite. Si Dieu nous a créés sans nous, il ne nous accomplit pas sans nous. Ainsi, Thérèse apprend à l'homme du XXIe siècle qu'il est, de par son être même, intérieurement ouvert à la transcendance et au mystère. Son désir d'accomplissement ne nécessite pas de se détourner d'un Dieu supposé extérieur et étranger à l'homme. Si celui-ci répond à l'appel à marcher vers son propre centre, il va y trouver un ami et un père, éducateur de l'humanité de l'homme et l'introduisant dans un dynamisme illimité qui dépassera toutes ses attentes et le conduira à la liberté parfaite. Tout ça, c'est pour dire que Thérèse d'Avila répond finalement à Vincent Payan. Thérèse connaît aussi les limites et les faiblesses de la liberté de l'homme. Elle a compris que l'homme a besoin d'un libérateur à toutes les étapes de son cheminement et surtout au début pour entrer dans le château. Alors ici, il y a un enseignement qui va peut-être nous surprendre et peut-être nous heurter. Thérèse décrit l'homme en état de péché mortel. L'homme a rompu les relations avec Dieu. On ne peut pas déloger l'hôte divin, dit Thérèse, mais la présence objective peut être refusée. Dans ce cas, le moi se retrouve, pour ainsi dire, dans les ténèbres et comme à l'extérieur de lui-même. Et Thérèse dit, « Toutes ces bonnes œuvres sont stériles quant à l'acquisition de la gloire, quant à l'acquisition du ciel. » Première demeure, 2-1. Inversement, Thérèse a découvert aussi que le bien que nous faisons a son principe, non en nous, mais en cette source où est planté l'arbre de nos âmes, en ce soleil divin qui féconde nos œuvres. Nous ne pouvons rien sans son secours. Première demeure, 2-5. Thérèse s'est rendue compte par expérience que l'homme n'agit jamais seul, qu'il soit juste ou pécheur. Ses actes dépendent toujours d'un principe d'action transcendant, c'est-à-dire d'un principe qui dépasse la personne elle-même. Elle a trouvé cet enseignement aussi dans l'Écriture. Elle se fonde sur le psaume 1, sur Jérémie 17, 8. Chez saint Paul aussi, on trouve cela. Le choix effectif du bien ne traduit pas seulement un effort de l'homme, mais d'abord une action de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Vous pouvez lire par exemple Galates 5, 22, 23. Or, Thérèse dit, et ça nous heurte, « Si ce principe de l'homme n'est pas Dieu, c'en est un autre qui prend la place de Dieu. » Comme dans l'enseignement biblique des deux voies, il n'y a pas de troisième voie neutre. Soit l'homme se lie d'amitié avec son principe de vie, soit il devient la proie des forces de la mort. On comprend dès lors que la liberté donnée à l'origine peut être perdue et qu'elle n'est pas toute faite, mais susceptible ou de grandir ou de diminuer. Nous sommes aujourd'hui choqués par cet enseignement. Le fait que nous ne puissions créer des choses à partir de rien, ça c'est plutôt évident. Mais que nous ne puissions faire librement le bien sans une source d'action autre que nous-mêmes, apparaît aujourd'hui à nos yeux comme une atteinte à la liberté et à l'autonomie. Dépendre de Dieu, non seulement comme être créé par lui, mais aussi quant à l'agir libre, n'est-ce pas une abolition de la liberté de l'homme? Et penser que nous puissions être esclaves d'un adversaire qui ne veut pas notre bien. Même si l'homme ne peut pas faire le bien sans Dieu, il demeure, dit Thérèse, que l'option pour l'un ou l'autre principe d'action est bel et bien l'expression d'un choix. Sans ce choix libre, on ne pourrait même plus parler de péché ni de mérite. Thérèse affirme donc à la fois la réalité de la liberté de l'homme et ses limites. Une vraie liberté n'est pas toute puissante. Le cheminement spirituel se fera grâce à Jésus-Christ qui libère l'homme des forces du mal, mais à cause de la présence de l'adversaire, ce cheminement ne se joue pas simplement sereinement entre Dieu et l'homme. Il est un combat contre des forces d'oppression qui restent d'ailleurs très actives jusqu'au septième demeure. Voilà la perspective qui s'ouvre devant celui qui entre dans le château. Or, Thérèse nous rassure, pour elle, le péché de l'homme, et j'ajouterai volontiers les forces du mal, n'ont pas le même poids que la grâce de Dieu. La confiance en la grâce doit primer en toute vie chrétienne et se doubler de crainte et de défiance de soi. Voilà, le fondement est posé. Jetons donc maintenant un regard sur cette histoire qui s'ouvre quand on franchit, grâce à l'aide de Dieu, la porte du château intérieur. Nous passerons en revue les sept demeures du château sous l'angle de la liberté et de la libération de l'homme. Je vais vous donner que des grandes lignes, un peu des clés, parce que l'heure ne permet pas de faire davantage, mais vous trouverez des plus amples explications dans le livre qui va bientôt sortir sur la liberté chez Thérèse d'Avila. Première demeure. Quand Thérèse décrit la situation de l'homme hors du château, elle montre les différents éléments qui empêchent l'homme d'être libre et d'agir librement. Il y a d'abord l'ignorance de soi-même, liée aux habitudes de vie hors du château. Parce que l'homme s'occupe tellement de son corps, il en oublie et il ignore son être profond, son âme et sa dignité de personne. Il se noie dans la recherche du bien-être individuel, des plaisirs, des divertissements. Au fond, si l'homme ne se connaît pas lui-même, alors ce qu'il veut est bien souvent le simple reflet de ses passions, de la mode ou des idées imposées de l'extérieur. À cela s'ajoute l'ignorance de Dieu, présent dans le centre du château. D'où cette impuissance de l'homme à réaliser ce qu'il veut. Il ne sait déjà pas ce qu'il veut vraiment. Et en plus, il n'y a pas de force pour le réaliser. Selon Thérèse, les personnes qui frappent à la porte d'entrée du château et franchissent le seuil sont ceux qui ont de bons désirs. De temps en temps, elles prient. Par moments, elles réfléchissent sur elles-mêmes et peuvent ainsi se rendre compte de leur état de dissipation. Cependant, elles sont encore impuissantes à se défaire des attachements aux biens et aux affaires, d'autant plus que le démon agit ici comme une lime sourde pour troubler et empêcher tout progrès. La porte par où l'on entre dans ce château, c'est l'oraison et la considération, dit-elle. Cela nous étonne. Comment la prière peut-elle être une porte d'entrée? L'oraison, selon Thérèse d'Avila, indique l'établissement d'une relation personnelle avec Dieu, fondée sur la certitude que Dieu nous aime et que nous pouvons répondre à son amour. L'effort demandé à l'homme n'est pas de se libérer soi-même de tout ce qui l'empêche de poser des actes vraiment libres, mais c'est d'entrer en relation avec celui qui va pouvoir le libérer. Thérèse nous propose ainsi une aventure un peu déconcertante où il faut risquer la rencontre avec l'autre. Il ne s'agit pas d'une simple introspection solitaire et individualiste qui enfermerait la personne en elle-même. Elle doit plutôt s'ouvrir et sortir du moi clos sur lui-même et risquer le rendez-vous avec celui qui est infiniment plus grand et absolument différent du moi. Ce mouvement de sortie et d'ouverture marque déjà en lui-même une sorte de libération des limites du simple moi. Une relation personnelle entre Dieu et l'homme demande d'exercer la liberté que l'on a déjà. Et désormais, le progrès qui se fera à travers les différentes demeures du château sera un progrès portant sur la qualité de cette relation avec Dieu, donc sur l'amour. L'augmentation de la qualité de l'amour à la fois nécessite et entraîne un accroissement de la liberté de l'homme. La première demeure est donc celle de l'acquisition d'une première liberté que l'on pourrait appeler liberté extérieure. Elle consiste à ne plus être esclave des choses, des personnes, des affaires qui nous entourent et à savoir rentrer en soi. Les premiers actes témoignant de cette première liberté consisteront à prendre du temps pour Dieu, à se recueillir et donc à se libérer des affaires non nécessaires, fuir tant d'occupations inutiles, se détacher des choses qui sont certainement bonnes en elles-mêmes, mais qui deviennent un obstacle pour la personne lorsqu'elle s'y attache, au mépris de sa relation avec Dieu. Donc cette première forme de liberté n'est pas constituée par les choses ou les affaires en elles-mêmes, mais par le rapport que la personne entretient avec elle. Les chaînes qui rendent esclave sont intérieures. La première liberté suppose donc bien une libération intérieure des choses extérieures. C'était juste pour préciser. Pour entrer dans les secondes demeures, dit Thérèse, il faut qu'on se dégage des soins, des affaires qui ne sont pas indispensables, chacun selon son état. Deuxième demeure. La personne rencontrant Dieu de temps en temps gagne une meilleure connaissance de Dieu et aussi de soi-même. Ainsi, d'un côté, l'homme voit et entend mieux les appels que Dieu lui adresse. Et de l'autre, il se rend davantage compte de ses difficultés à lui répondre et des tentations que le démon dresse devant lui. L'homme découvre mieux ses propres facultés, sa façon de fonctionner et ses réactions aux événements de la vie. Il se rend compte aussi de plus en plus des dysfonctionnements, des blessures subies, de ses mauvaises tendances, et d'autres conséquences du péché en son intérieur. Un auteur, Thomas Alvarez, parle d'une vraie dynamique du mal qui se découvre à l'intérieur, même dans l'homme baptisé. C'est une guerre à l'intérieur, reconnaît Thérèse. Et je la cite, deuxième demeure, numéro 9. Comment espérer goûter le repos au dehors lorsqu'on n'en trouve pas chez soi? Quand ses amis si intimes, ses parents si proches, avec lesquels, bon gré, mal gré, nous devons continuellement vivre, je veux dire les puissances de notre âme, semblent elles-mêmes nous faire la guerre, comme pour se venger de celles que nos vices leur ont fait. Thérèse conseille ici de travailler à faire la paix en soi, patiemment et avec persévérance, et par un effort ascétique, construire, toujours avec la grâce de Dieu, une première liberté intérieure pour petit à petit se posséder soi-même. Canaliser les tendances, refuser le prêt-à-penser et les modes qui font envie, ne pas se laisser entraîner vers les biens inutiles, et persévérer dans la recherche de Dieu, même s'il n'y a pas de consolation. Le combat s'apaisera lorsque l'homme réussira à maîtriser ses facultés et puissances. Je la cite, « Peu à peu, on devient maître de soi. Au lieu de se dissiper en pure perte, on arrive à se conquérir soi-même pour son propre avantage, je veux dire, à faire servir ses sens à son bien spirituel. » C'est dans le chemin de la perfection, 29, numéro 7. La maîtrise de soi nous introduit alors dans les troisièmes demeures. Dans les troisièmes demeures, l'homme fait l'expérience d'une certaine autonomie. La première prise de conscience des victoires obtenues dans les luttes précédentes est positive. La personne est devenue le maître chez soi. Elle n'est plus simplement le jouet de ses propres désirs et envies. La réflexion rationnelle a pris le dessus et permet de mener une vie bien organisée, déjà engagée pour Dieu et pour le prochain. La liberté dont on jouit ici peut s'exprimer ainsi. Enfin, je peux faire ce que je pense et ce que je veux. Je ne suis plus simplement le jouet des contraintes extérieures ou intérieures. À cette étape, Dieu consent qu'il y ait des épreuves pour permettre à l'homme de se rendre compte de ce qu'il veut en vérité. S'il ne supporte pas qu'on lui retire des biens, qu'on ne l'honore pas, qu'on lui enlève injustement des choses qui lui appartiennent, c'est souvent le signe qu'il est encore attaché à ces choses et à travers elles, à son propre moi avec ses possessions. Il y a donc aussi une prise de conscience négative. Le bel ordre instauré dans la vie n'est peut-être pas encore vraiment l'expression de l'amour de Dieu, mais se trouve être parfois le signe d'une recherche de soi. La liberté acquise ne sert pas encore sa vraie finalité, à savoir la charité. Inconsciemment, en sortant de certains esclavages intérieurs et extérieurs, l'homme s'est fait le centre du monde et il tient surtout à ses propres droits. Thomas Alvarez nomme cet état des troisièmes demeures l'adolescence de l'esprit. En effet, l'affirmation de soi est comme le signe d'une autonomie qui est encore entachée d'erreurs. D'ailleurs, que veut dire être autonome ? Est-ce être indépendant de tout ? Est-ce se donner à soi-même sa propre loi ? Est-ce là la vraie liberté et le sommet de la vie chrétienne ? Thérèse nous avertit que cette liberté-autonomie court le danger d'être idolâtre vis-à-vis d'une redoutable idole intérieure à laquelle l'homme tient férocement, son propre moi, qui n'est pas encore connu dans toute sa profondeur et qui est encore marqué par les conséquences du péché. Nous connaissons tous ça, hein? Ainsi, les troisièmes demeures ne sont pas le sommet de la liberté. Il faudra passer aux demeures suivantes, où Dieu lui-même commence à libérer l'homme progressivement de ce que saint Paul nomme la loi du péché encore présente en lui. Mais l'homme est-il prêt à laisser faire Dieu ? Dieu ne demande pas des efforts surhumains à l'homme pour qu'il se libère lui-même. Il s'agit plutôt d'accepter humblement que Dieu fasse gracieusement cette œuvre irréalisable par l'homme. Tant qu'on s'appuie sur soi, on n'avance pas. Thérèse dit dans les Troisièmes demeures, chapitre 2, numéro 9, « Y a-t-il rien de plus pénible et de plus ennuyeux que de n'avoir pas su se laisser soi-même. » Quatrième demeure. Le passage des troisièmes aux quatrièmes demeures est un véritable exode, où Dieu nous fait la grâce d'aller plus loin que ce que nos propres forces sont capables de faire. C'est ici le domaine du surnaturel qui, pour Thérèse, est le domaine que Dieu se réserve. Que fait-il ici? Dieu dilate le cœur de l'homme en exerçant une influence bienfaisante sur la volonté. Les choix de l'oraison font sortir l'homme des limites qui enserraient son cœur. C'est une libération des choix mondaines, en faisant l'expérience d'autres joies venant de Dieu et qui sont un ressort beaucoup plus puissant pour l'action de la personne. La volonté se fortifie par l'amour reçu et le champ d'action s'agrandit. Ici, l'homme découvre une nouvelle profondeur du moi intérieur. C'est dans cette demeure que Thérèse s'est rendue compte qu'il y a différentes facultés et que tout n'est pas pareil, que l'imagination n'est pas l'entendement, et qu'il y a différentes profondeurs. Dans les prières surnaturelles, l'homme commence à vivre par le fond de l'âme, par son centre mystérieux. Il découvre par expérience que son moi intérieur n'est pas simplement le je qui sent, ni le je qui pense, ni le je qui veut, mais qu'il y a une profondeur mystérieuse que les nouvelles formes d'oraison vont désormais révéler de plus en plus. L'homme aussi est un mystère. Il est capable de vivre à partir de son centre le plus profond qui dépasse sa propre pensée consciente. La nouvelle liberté à acquérir sera celle de ce moi profond. Thérèse insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agira désormais d'apprendre à aimer en acte et non pas seulement en désir. Nous apprenons ainsi que la liberté n'est pas un absolu ou un en soi, mais qu'elle est un aspect de notre capacité d'aimer. Plus l'homme grandira en liberté, plus il deviendra capable d'aimer, et inversement, plus il aimera, plus sa liberté grandira. L'œuvre qui commence ici dans les quatrièmes demeures va s'approfondir jusqu'au septième. Il s'agit désormais de laisser Dieu agir librement pour qu'il reconstruise et restaure l'humanité en l'homme afin qu'elle fonctionne à plein et non plus selon les déformations introduites par le péché. Dieu va reconstruire en l'homme sa vraie autonomie et sa vraie liberté. Thérèse a fait l'expérience que toutes les interventions de Dieu dans la vie de la personne vont dans cette même direction. Fortifier et rétablir toutes les capacités de la personne en vue de l'amour et donc en vue de la liberté. Thérèse a compris que la vraie autonomie de l'homme se fonde et se construit sur la dépendance de Dieu. Être autonome car dépendant de Dieu. Le chemin inauguré dans les quatrièmes demeures nécessitera un art bien particulier, celui de se mettre au pas de Dieu. Je vais devoir aller plus vite. Au cinquième demeure, l'homme franchit une étape importante dans cette transformation intérieure que Dieu opère. C'est une vraie union de volonté avec Dieu qui se fait. C'est un état où la volonté de l'homme est réordonnée à la pratique du vrai bien. Et cela se manifeste dans l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'exercice de la charité. C'est une étape décisive, un acquis et un fondement qui vont rester jusqu'au sommet de la sainteté. C'est une vraie métamorphose de l'homme. Thérèse dit dans les cinquièmes demeures 2, numéro 7, « Je vous le déclare en toute vérité, cette âme ne se reconnaît plus elle-même. Elle se trouve décentrée d'elle-même avec de grands désirs de faire la volonté de Dieu et d'aimer les autres. » Nous faisons souvent l'expérience que notre libre arbitre est tiraillé entre notre vrai bien et les biens passagers qui se présentent à nous. C'est le recours à l'obéissance qui va faire sortir l'homme de cette ambivalence de la volonté partagée entre différents biens et permet à l'homme de poser des actes où la volonté de son moi profond et le vouloir dans les choix concrets se mettent en adéquation. Je ne peux pas l'expliquer plus. Dans cette demeure, l'importance de l'obéissance, c'est justement pour assurer à ce que les actes correspondent toujours au moi profond. Il ne se laisse pas entraîner par le vouloir superficiel. Ça, vous trouvez de plus amples explications sur l'obéissance dans le livre. Donc, je passe vers les sixièmes demeures. Dans les sixièmes demeures, opère enfin une totale libération de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Parce que l'action de Dieu ne se concentre plus sur une seule faculté, pardon, la volonté, mais son action de libération se fait sur le fond même de l'âme. Thérèse décrit cette transformation intérieure de l'homme à travers les nombreuses grâces, qui chez elle étaient des grâces extraordinaires, mais aussi à travers des grandes souffrances qui ont pour but d'introduire la personne dans la septième demeure. Thérèse parle de purification. Jean de la Croix parle de la nuit de l'esprit. Même après les cinquièmes demeures, la volonté de l'homme n'adhère pas encore parfaitement à la volonté de Dieu. Pourquoi ? À cause de son propre fonctionnement, vicié par des tendances désordonnées. Saint Paul souligne en Éphésiens 4, 22-24 que l'homme a besoin d'une transformation spirituelle, de ses capacités de connaître et de vouloir, ce qui signifie un renouvellement, une sorte de recréation par Dieu de la profondeur de l'esprit à la racine même de toutes les facultés. L'homme veut bien tout ce que Dieu veut pour lui, mais sa façon de vouloir n'est pas encore libéré de certaines conséquences du péché. Le Père Marie-Eugène parle d'une purification morale, où il s'agit de nettoyer l'esprit à l'origine des capacités d'action de l'homme, de toutes les tâches que le péché y a laissées. La personne va se laisser libérer de tout mensonge en elle et acquiert ainsi l'humilité vraie. Elle va aussi voler sur les chemins de l'amour qu'elle reçoit de Dieu. Là, je vais sauter un peu. Le résultat de cette purification, c'est une souveraineté. Vous avez sur la diapositive une citation du livre de la vie, chapitre 20, numéro 25. Quelle souveraineté que celle d'une âme qui, portée à cette hauteur par Dieu lui-même, considère toute chose sans être enchaînée par aucune. Les désirs particuliers se transforment en une seule aspiration puissante de toute l'âme vers Dieu. Le Père Marie-Eugène parle ici aussi du retournement psychologique qui fait que la personne n'est plus déterminée dans son agir par ce qui lui vient de l'extérieur, par les sens, mais qu'elle est mue directement par Dieu de l'intérieur de son âme. Plus Dieu agit lui-même dans la personne, plus son action est libre, plus son action porte les marques de l'activité divine, à savoir liberté, pureté, force, douceur, efficacité. Là, on voit clairement le 100% Dieu et le 100% homme. La personne qui avance ainsi peut espérer se voir introduite dans la dernière demeure au centre du château et acquérir la liberté d'esprit. Donc, j'ai fini sur la liberté d'esprit. Nous voici au sommet de la vie spirituelle. Dans cette demeure se trouve réalisée une union, non plus simplement de la volonté, mais une union d'esprit avec Dieu, grâce à la purification qui s'est faite dans les sixièmes demeures. Pour dire son expérience d'union avec Dieu, Thérèse compare celle-ci à un petit ruisselet qui se jette dans la mer et qu'il est impossible d'en séparer. Elle renvoie aussi à saint Paul, 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Septième demeure, 2, 5. L'âme est devenue une même chose avec le Dieu fort par cette union souveraine d'esprit à esprit et participe désormais à la force et à la liberté de Dieu. En quoi consiste alors cette liberté d'esprit? Vous avez la citation des Fondations 5-7 sur la diapo. Les âmes qui l'ont en partage possèdent tout en ne voulant rien. Elles ne craignent ni ne désirent aucune chose sur la terre. Elles ne sont ni troublées par les œuvres, ni touchées par la jouissance. Enfin, personne ne peut leur enlever leur paix, parce que cette paix ne dépend que de Dieu, à qui nul ne peut la ravir. Il y a une autre citation du chemin de la perfection, chapitre 32:12. Le Seigneur en vient alors à une amitié si tendre que non seulement il rend à cette âme la volonté qu'elle lui a donnée, mais il y joint la sienne. Dans l'extrême affection qu'il lui porte, il veut que ce soit, comme l'on dit, à chacun son tour de commander. Et il fait lui-même ce dont elle le prie, comme elle accomplit tout ce qu'il lui commande. On a déjà entendu, je vais passer, cette citation sur le sommet de la vie spirituelle, le père Étienne l'a commenté. La vraie liberté, c'est finalement cet esclavage de Dieu. Esclavage de Dieu, le mot esclave n'est pas, ne se tient pas de notre vocabulaire où un homme est esclave d'un autre homme, mais ça renvoie au vocabulaire biblique du serviteur. Le mot esclave en hébreu veut dire aussi travailleur, cultivateur et serviteur. Il renvoie dans l'Écriture au livre d'Isaïe, le serviteur de Dieu. On peut trouver d'autres exemples, je saute. Il y a Marie qui se dit la servante du Seigneur. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La liberté parfaite qui est un esclavage de Dieu dit donc simplement le service de Dieu. Donc je finis avec cela. La liberté d'esprit, c'est servir Dieu. C'est entrer dans son dessein de salut pour toute l'humanité et y collaborer activement, même au prix de sa vie. La liberté d'esprit permet à l'homme d'exercer une mission rédemptrice dans l'Église que la personne assume comme témoignage suprême de son amour pour Dieu. La liberté finit par se résumer toute en la communion à la liberté souveraine avec laquelle Dieu désire sauver le monde. C'est une citation de Michel de Goethe. Merci.